Bienvenue à tout le monde. Je suis très heureux de pouvoir présenter dans le cadre du Festival Jean Rouge cette masterclass avec Thomas Favel. Thomas se présentera lui-même très vite et je me bornerai à faire une courte introduction. Et d'abord, la première chose à dire, c'est que c'est un mot de remerciement. En nom de nom, je crois que je peux le dire. Je tiens à remercier le Festival Jean Rouge de nous donner l'occasion de présenter ce soir nos réflexions devant vous. Nos remerciements sont d'autant plus profonds que, comme vous allez vous en rendre compte très vite, les questions que nous aborderons ne concerneront pas spécifiquement le cinéma ethnographique ou anthropologique, ni même le cinéma documentaire. Elles se situeront plutôt au point d'indifférence des deux familles de genre, c'est-à-dire là où, quoi qu'il soit par ailleurs, le cinéma documentaire et le cinéma de fiction sont tous les deux du cinéma. Un mot rapide peut-être sur le point de départ de la réflexion que nous tenterons de développer avec vous. Le petit texte de l'annonce que j'ai concocté dans l'urgence risque de ne pas vous éclairer. Et je m'en excuse vraiment, c'est une catastrophe. Mais je suis sûr que ce dont il s'agit deviendra parfaitement clair à travers le parcours filmique du travail de Thomas qui nous occupera ce soir. Cependant, pour fixer provisoirement les idées par autre chose que par un texte abscond. Permettez-moi de vous montrer en entrée un petit document qui résume parfaitement un des points à partir duquel nous partons. Donc, Thomas. Si... points, c'est en fait y compris les halos colorés, c'est les points de l'écran sur lesquels se fixent les yeux des spectateurs. Donc là, vous avez tout un ensemble de spectateurs, on leur met des oculomètres et on peut voir quels sont les points de fixation sur lesquels, où ils regardent sur l'écran. Vous avez vu que là, ils sont très centrés, tout le monde regarde pratiquement la même chose, c'est dû à l'organisation tout simplement de l'image, mais voilà, c'est intéressant, c'est très compliqué comme dispositif expérimental et aussi les résultats qu'on peut en tirer sont relativement compliqués, mais c'était simplement pour vous montrer que le point de départ dont on est parti, c'est ça. D'abord, il y a des yeux qui regardent un écran et qui essayent de s'y retrouver. Donc l'expérience filmique du spectateur est d'abord une affaire de perception visuelle ou le plus souvent visuelle auditive. Et ce sera là le point de départ trivial de notre soirée. La zone de contact, c'est ça où le texte revient, originaire du spectateur avec les œuvres filmiques et l'image sur l'écran, ou pour être plus précis, le flux quasi perceptif, ou perceptif, on pourra en discuter un tout petit peu, qui s'y trouve projeté. Et cette zone de contact est abordée avec les organes de sens standards que nous avons dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les yeux et les oreilles. Et on va se limiter ce soir essentiellement à la vision et on laissera de côté le son, mais ça ne veut pas dire qu'on considère que le son est moins important, mais il faut bien mettre quelque chose au centre, sinon ça devient trop compliqué. Alors, ce point de départ posé, l'idée d'organiser cette soirée autour du travail d'un chef opérateur s'est imposée d'elle-même. On peut dire que l'opérateur est du côté de la création, du côté de là où le film se fait, dans une situation qui est symétrique, en quelque sorte, de celle du spectateur du côté de la réception. Le chef opérateur extrait un flux filmique d'une expérience perceptive, la sienne, et le spectateur re-extrait ou extrait de nouveau de ce flux filmique une expérience quasi perceptive. Il y a donc deux transformations en sens inverse, mais bien entendu, l'expérience du spectateur ne retrouve pas l'expérience de départ du chef opérateur, mais un espace nouveau que son cerveau visuel extrapole à partir du flux filmique qui a été construit par la prise de vue. Alors j'ai employé un terme barbare qui est quasi perceptive ou quasi perceptive, plutôt que simplement expérience perceptive pour l'expérience du spectateur. La première raison en est que dans le cas du flux que constitue un film, lorsqu'il est vu en conditions standard dans une salle ou devant un écran de télé, ce flux n'est simple toujours qu'une partie du champ perceptif réel du spectateur. Il est assis dans une salle, sa vision périphérique a évidemment enregistre des stimuli qui viennent de la salle, et il suffit qu'une lumière très vive soudain s'allume du côté gauche ou du côté droit dans la salle pour que évidemment son regard dévie, ce qui montre bien que voilà, il traite aussi des informations visuellement des informations qui ne viennent pas de l'écran. Son champ perceptif ne coïncide pas avec le champ filmique. Ce n'est que dans des expérimentations, des dispositifs plutôt de réalité virtuelle, que le champ visuel de celui qui porte le casque correspond effectivement au champ de sa vision. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui est à l'extérieur et les deux coïncident. Ce qui explique entre autres pourquoi on peut utiliser des casques de réalité virtuelle pour en médecine, pour traiter des phobies, etc., parce que le stimulus est assez proche d'un stimulus perceptif réel pour qu'il puisse opérer les mêmes effets lorsqu'on a une phobie, par exemple, de vertige ou tout ce que ce soit. La deuxième raison, que contrairement au flux visuel écologique de notre perception, la mienne ou la vôtre maintenant, le flux filmique est un flux qui est déjà organisé. C'est une perception qui est organisée. Ce n'est pas une perception que moi j'organise à partir de zéro, mais elle est déjà, et Dieu sait combien, elle est déjà organisée, parce que, évidemment, c'est le produit d'une création. Donc le spectateur voit ce que le cinéaste et le chef opérateur veulent bien lui montrer. Et la troisième raison est que, contrairement au flux perceptif qui est continu, la plupart du temps, le flux filmique est, sauf rarissime exception, structuré par et à travers des discontinuités, à la fois spatiales et temporelles. Et ce sont précisément ces discontinuités, donc, en fait le montage, pour aller vite, les coupes et le montage, qui sont les lieux à travers lesquels du flux filmique émerge un monde filmique construit, qu'il soit narratif ou descriptif au sens large du terme, et du même coup une œuvre. Ce qui signifie que l'expérience du spectateur et du film est toujours scindée. Il est immergé dans des flux quasi perceptifs qui sont traités par son cerveau visuel, et en même temps son cerveau, disons intentionnel, pour aller vite, compute un monde représenté et une œuvre grâce à son expérience des langages cinématographiques et plus généralement de son expérience culturelle. On peut le dire plus simplement, peut-être un film est toujours à la fois une expérience de la vision et une aventure regard. Mais je vais donner sans tarder la parole à Thomas, afin que d'une part il vous présente son parcours et aussi les raisons pour lesquelles il a accepté de placer cette soirée sous le thème de l'expérience perceptive comme zone de contact entre l'œuvre filmique et le spectateur. Voilà. Étant entendu qu'il va avoir cette question-là du point de vue de celui qui fait le film. Voilà. Thomas, à toi.
Merci Jean-Marie et bonsoir à tous. En effet, je vais me présenter, surtout que je pense que les images que je vais vous montrer vont paraître un tout petit peu incongrues par rapport à ce qu'on peut attendre d'un festival de cinéma ethnographique ou même de cinéma documentaire. C'est-à-dire que ma façon de travailler l'image s'éloigne du réel, du moins d'un certain type de réalisme ou de naturalisme, mais on verra du coup que ces catégories ne veulent pas dire grand-chose, et en tout cas, de ce qu'on perçoit déjà, c'est que notre expérience n'est pas catégorisée, c'est vraiment une expérience sensible. Moi, je pourrais paraître un peu l'exact opposé de ce qu'on peut attendre, mais en fait, c'est comme l'âge de glace qui pourrait être comme l'exact opposé de ce qu'on pourrait attendre dans un festival Jean Rouch, alors que c'est au contraire un point de rencontre qui est absolument fondamental. Je vais vous raconter un peu mon parcours. Moi, je suis pas né avec la passion du cinéma. Je vivais à la campagne, très loin de tout cinéma. J'ai découvert ça assez tard, en réalité. Et ce que je voulais faire quand j'étais adolescent, c'était être ethnographe, justement. Je suis venu à Paris pour étudier une langue africaine, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à filmer. Donc c'était toujours lié à ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait une école de cinéma. Je suis allé vers la fiction, mais finalement le documentaire est toujours resté sous-jacent. Et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que de toute façon, même le documentaire qui pourrait être le plus scientifique est une branche aussi possible de toute une expression qui est tournée vers le réel et un certain type de réel qui est aussi une interprétation de nos sens. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à être resté du côté de ce que je pense être rouge, c'est-à-dire du côté de la cité trans, que je rattacherais à ce qui pourrait être le mythe, la pensée magique, la tradition orale. Voilà. Mais sans jugement sur d'autres... comment dire ? Sans jugement préalable sur d'autres façons de voir le monde, de l'étudier et de l'appréhender, que ce soit dans le cinéma ou dans la vie ou dans nos activités de connaissance. Si je parle de rouge, c'est que pour moi, dans le cinéma, il y a quelque chose qui est assez fondamental, et c'est le rapport à l'image. Et ce rapport-là, dans ma pratique, en tout cas, je ne le détache pas. Justement, la pratique est de l'acte de créer des images. Donc on peut dire que le film est comme un geste ou comme une performance, en quelque sorte, et qu'il est de toute façon marqué de tout ça. Ce qui veut dire aussi que ce que le spectateur en perçoit, c'est aussi la marque d'une autre pensée qui est passée avant ou d'une autre action. On verra que les choses sont liées de manière pas toujours très claire. Ce qui est sûr, c'est que il y a cette façon de percevoir, mais donc cette façon de percevoir, c'est pas juste une perception et on n'arrive pas sur un film comme ça. C'est-à-dire que quand moi je reçois un scénario, avant d'avoir une idée du film qui va être fait, eh ben j'ai l'idée de tous les films qui ont été faits, enfin de tous les films. J'ai l'idée de tous les films que moi j'ai pu voir ou que j'ai pu faire avant, qui me reviennent à l'esprit. Et avant donc de trouver la logique intrinsèque à un film, j'ai d'abord la logique de la culture dans laquelle j'ai été plongé avant. Donc c'est vraiment un préalable. C'est-à-dire que si on parle de l'écran comme zone de contact, c'est qu'elle est aussi, pour les gens qui font des films, la première zone, c'est le premier lieu où naît le film. C'est-à-dire que le film naît du souvenir aussi des projections passées. Donc, et le film, il vient des films que moi j'ai vus, que moi j'ai fait, mais que le réalisateur a vu et a fait, toute l'équipe a vu et a fait, et du coup c'est tout cet ensemble qui nous fait aller vers des archétypes, qui nous permettent de créer, d'essayer de trouver la logique interne à chaque objet film, et qui passe par ce geste justement, qui est d'essayer de percevoir de manière... de manière obscure, parce qu'on ne se dit jamais les choses finalement. On découvre le film assez tard, mais en le faisant, on sait quand on est dans la bonne voie. Donc tout ce qui... Du coup, on se rattache à toute la culture pour le faire. C'est-à-dire la culture visuelle des films, la culture de la photographie, la culture de la peinture. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on arrive à construire quelque chose qui sera différent et qui sera en quelque sorte à chaque fois une discussion sur la culture entre différentes personnes. Et donc ça, pour moi, c'est vrai évidemment pour mon travail avec le réalisateur, et c'est vrai aussi pour la réception de l'œuvre du spectateur. Donc c'est là vraiment où se situe, dans ce milieu, dans ce lieu-là, la salle, où se situe le point de rencontre entre le créateur et le spectateur.
Peut-être que c'est aussi peut-être un point sur lequel il faut qu'on insiste depuis le début, c'est que insister sur la perception, ce n'est pas opposer une sorte de vision naturalisée du cinéma à une vision culturelle, c'est plutôt s'intéresser à la rencontre entre ce qui vient de tout simplement du fait que nous sommes des êtres vivants doués d'un appareil perceptif qui fonctionne, voilà, d'une sensibilité qui fonctionne de telle manière et pas de telle autre, et puis le fait que nos perceptions au sens plein du terme sont toujours très fortement construites par ce qui nous vient de notre culture. Et ce qui est fascinant dans la perception en général et dans la perception lorsqu'elle a lieu à partir d'objets culturels, c'est la façon dont ces deux dynamiques en fait se rejoignent, se renforcent ou parfois au contraire s'annulent et s'opposent ou créent des tensions, souvent des tensions aussi qui peuvent être très productives. Et je crois que c'est autour de ça en fait que va tourner notre soirée. Ce double mouvement qui est à la fois, c'est une vision, mais c'est aussi un regard. Et les deux portent sur la même chose. Alors nous avons, il fallait bien organiser, parce que c'est un thème tellement vaste, nous avons essayé de délimiter trois questions. Donc la première, c'est la dimension spatiale du flux filmique et de l'expérience de ce flux. Alors, il faut dire sans doute tout de suite qu'au cinéma, comme dans la vie réelle, on ne peut jamais séparer la question de l'espace, qui est aussi le lieu du mouvement, du temps. Donc, parler de la spatialité implique aussi penser, sinon parler, de la temporalité, et ne jamais oublier que l'espace est dans le cinématographique, et comme l'espace perceptif, un espace dynamique qui se transforme à travers le temps, et l'expérience du spectateur, elle est autant cette expérience du temps, de la temporalité, de l'espace qui se transforme en temps, que celle du temps qui se trouve spatialisé, comme Panofsky l'avait dit il y a déjà longtemps. Donc, première question, malgré tout, pour faire des distinctions analytiques, puisqu'il en faut un peu, c'est la question de l'espace. La deuxième, c'est celle de la lumière et de ses fonctions multiples dans la construction filmique, et on va essayer de trouver quelques-unes de ces fonctions, sans doute les plus fortes et les plus influentes pour l'expérience filmique. La lumière, là aussi, on voit qu'elle ne saurait être séparée de la question de la spatialité, puisqu'elle joue un rôle central dans l'organisation même de l'espace ou la structuration même de l'espace filmique. Mais la lumière a d'autres effets qui ne sont pas directement liés à l'organisation de l'espace, notamment une fonction d'atmosphère, et Dieu sait si les atmosphères sont très importantes pour nos expériences, même si elles sont rarement explicitées, mais nous sommes dans une certaine disposition affective ou émotionnelle, et cela dépend entre autres de l'organisation des lumières dans le film. Donc la lumière contribue très fortement à l'aspect émotif de nos expériences filmiques. Enfin, le troisième point sur lequel nous allons nous pencher, c'est la question de la couleur. Là, vous voyez bien que la séparation est artificielle d'une certaine manière, puisqu'on peut difficilement séparer la question de la couleur de la lumière, dans la mesure où la teinte est une des composantes de la lumière. Et on voit aussi le lien avec l'espace, puisque les couleurs, les masses colorées jouent un grand rôle d'organisation de l'espace perceptif réel. C'est un point très important pour identifier différentes régions dans l'espace, et évidemment aussi dans la construction cinématographique, puisque les répartitions de masses colorées ont très souvent un effet proprement structurant sur l'espace filmique lui-même. Donc c'est en fait trois dimensions interdépendantes, et on les a séparées, mais je crois que ça va passer de l'un à l'autre. Alors peut-être un dernier mot, parce que c'est quand même long, 4 heures ou 3 heures, 3 quarts, donc sauf si la discussion s'avère infinie, on voudrait d'abord, après avoir abordé le premier thème, faire une discussion avec vous et puis faire une petite pause et puis aborder la couleur et la lumière qui sont vraiment très, très étroitement liées dans la deuxième partie de notre soirée. Donc, sauf si vous discutez sans discontinuer, on va faire une petite pause pour que chacun puisse un peu respirer et avant la deuxième partie. Donc, la première partie, c'est, comme je l'ai dit, l'organisation spatiale et je me tourne vers toi.
Oui. Et de toute façon, tout de suite, on va aborder ça par la question pratique. C'est-à-dire qu'évidemment, l'organisation spatiale, elle se détache absolument ni de la lumière ni de la couleur, dans le fait même que quand on fait un cadre, ou quand on fait une lumière, on fait d'abord un cadre, on fait une lumière pour un cadre, enfin, on ne s'amuse pas à éclairer tout le décor. Et donc, déjà, il y a une interprétation, le cadre est interprété. Enfin, la lumière interprétée par le cadre interprété par la lumière, c'est la même chose, c'est complètement corrélé. On a une histoire du cadre, on va dire, qui part des théories sur la perspective, qui part d'Alberti. Alberti, Renoir, Bazin, on va dire, l'idée de la fenêtre ouverte sur le monde, c'est-à-dire l'origine du cinéma, c'est-à-dire les frères Lumière qui se promènent un peu partout et qui prennent des morceaux de réel. Donc c'est ça, c'est une caméra qui prend des morceaux de réel un peu partout, qui les ramène. Mais fenêtre ouverte sur le monde, ça a une connotation un petit peu presque objective. Et c'est pas comme ça que fonctionne une caméra en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment même où il y a un œil derrière la caméra, déjà, la caméra n'est plus juste un objet qui enregistre. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Non, mais pas besoin, c'est juste une photo. Oui. C'est une caméra de réalité virtuelle. C'est une caméra un peu professionnelle, mais peu importe, elle marche toutes sur le même modèle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a sur les hémisphères. Alors, il y a là, de ce côté-là, je vous montre l'autre côté. Ah oui, ça, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire que la caméra imite tellement le corps humain qu'ils ont pensé à même faire un coup, là. L'enregistrement se fait au niveau de la nuque, c'est-à-dire là où est le lieu de la mémoire. Et on a une, deux et de l'autre côté, quatre caméras sur l'axe horizontal, sur l'équateur, qui correspondent tout à fait à la vision périphérique qui est évidemment privilégié, comme ça, on voit plus comme ça qu'en haut, en bas. Et en haut, en bas, on a deux caméras en haut et deux caméras en bas, c'est-à-dire moins, et on peut aussi choisir de ne tourner qu'avec les yeux. Voilà, là c'est l'autre côté, mais c'est un peu la même chose. En fait, ce qu'on comprend assez vite en voyant ça, c'est que la perception de l'espace passe par l'optique, par la technique. La réalité virtuelle, ce qu'elle nous apprend, c'est que la caméra, ce qu'elle enregistre, c'est pas du réel, c'est notre façon de voir le monde. C'est-à-dire que même la caméra, de la façon dont elle est fabriquée et pensée, c'est une imitation de la vision humaine. Qui là, par contre, s'arrête en effet au fond de l'œil, qui sera récupérée par une mémoire, mais en réalité, le parcours continue et la récupération des données ensuite. C'est à ce moment-là que se fait le travail qu'on pourrait dire du cortex, enfin le travail neurologique se fait après par informatique. Mais donc ce n'est pas de la perception visuelle pure, sans l'intervention du cerveau, la conscience est déjà là. Et c'est aussi vrai de la caméra classique, c'est-à-dire que quand on pense à une caméra classique, évidemment, ce qui se branche dessus, donc après l'optique et le capteur, la pellicule, qui est un moyen de recollecter les données, c'est qu'il y a quand même un œil qui se met dessus. Et il y a quand même quelqu'un qui voit. Donc la caméra n'est pas neutre, jamais neutre. Donc l'idée de fenêtre ouverte sur le monde, c'est une fenêtre qui voit les choses, mais qui voit les choses par son intériorité et qui les présente à quelqu'un d'autre aussi. C'est la perception, oui. C'est une perception. Oui.
Et peut-être aussi que c'est je ne sais pas, quand on réfléchit un peu à la question de l'imitation en peinture, pendant très très longtemps, le débat portait sur l'idée que la peinture imitait la réalité. Et les anti-mimétiques, ceux qui s'opposaient à cette théorie, avaient beau jeu de répondre, mais il n'y a rien de commun entre une surface peinte et puis des objets en trois dimensions qui sont dans la réalité. Ontologiquement, il n'y a aucun lien. Comment vous pouvez dire que ce qui est sur l'écran imite ce qui est dans la réalité? Et c'est que parce qu'en réalité, pendant très très longtemps, on avait oublié que la véritable relation d'imitation n'est pas entre le monde et l'image, mais entre l'image et la perception humaine. C'est-à-dire, c'est parce que l'image est congruente à la façon dont la perception humaine visuelle peut traiter le monde, que nous pouvons aussi traiter des images. Donc l'image est dirigée par rapport à une homologie partielle ou une parenté partielle avec notre vision, et la parenté avec les objets du monde, elle n'est là que parce qu'il y a cette parenté avec notre vision. C'est parce que nous regardons, et lorsque nous regardons, eh bien, nous regardons en gros de la même manière que nous regardons le monde, avec des différences bien sûr, qu'on peut dire que l'image imite le monde. S'il n'y a pas cette imitation, en fait, de la manière de voir, il n'y a pas d'imitation. Et donc le débat a été faussé pendant très très longtemps de cette manière-là, et ça s'est étendu, je pense, à la question générale du réalisme et à toutes ces questions liées à cela. Et d'une certaine manière, la photographie et le cinéma ont rendu possible une sortie de ce débat, parce qu'ils ont montré, par leur dispositif matériel, en quelque sorte, que ce qui est en jeu, c'est la relation entre des signes visibles et notre façon de regarder, notre regard, et non pas le monde, et puis c'est les signes visibles. Je ne sais pas si c'est ça.
Non, bien sûr. Non, et puis, alors, du coup, la vraie question, c'est en effet, elle n'est pas du côté du réalisme ou du pas-réalisme, c'est aussi du côté de l'attention du spectateur.
C'est ça, ouais.
Et pour nous, le travail, c'est comment capter l'attention du spectateur. Alors, ça, c'est une très, très vaste question. Et justement, c'est ce qu'on parle. Enfin, le réalisme est important parce qu'il nous fait baigner dans des codes qu'on connaît, en gros. Et donc, du coup, à partir de là, il y a une attention un petit peu faible, on va dire, mais à partir de laquelle on peut travailler et faire surgir un peu de la... des choses qui surprennent, un peu plus de l'ordre de la nouveauté. Ça va de l'ordre du surgissement, on va dire, d'essayer de trouver dans un monde qui semblerait normal, on va dire, de trouver des points d'accroche.
Je pense que, oui, il y a ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut à la fois un peu de familiarité, parce que s'il n'y a aucune familiarité, notre esprit ne peut pas traiter l'information. Ça devient du bruit, donc nous ne comprenons rien à rien, c'est du bruit. Si la familiarité est trop grande, ça devient de la redondance, c'est des choses que nous avons vues mille fois, et dans ce cas, c'est pas non plus. L'esprit passe dessus, la vision, pareil, passe dessus sans s'y arrêter. Et il faut une sorte à la fois d'équilibre et de tension entre ces deux extrêmes, et c'est là où l'attention va arriver à se cristalliser et à atteindre un régime, disons, d'investissement important. Et c'est ça, je crois, que cherche toute œuvre d'art visuel, donc aussi le cinéma, c'est d'abord d'accrocher l'attention et de lui donner les moyens d'être très intense. Plus intense que notre attention est normalement dans la vie de tous les jours, où nous traitons beaucoup de choses de façon automatique, sans y faire attention. Et d'ailleurs, nous avons besoin de faire cela parce que nous ne pourrions pas vivre si nous devions tout traiter avec l'attention que nous apportons à une œuvre d'art. Mais dans le cinéma ou dans la recherche scientifique ou dans d'autres contextes où l'attention est le moyen par rapport à travers lequel on peut faire l'expérience qu'on cherche, eh bien, elle est sollicitée très, 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 très fortement, parfois sollicitée jusqu'à la limite de ce qu'elle peut traiter. On voit ça, et dans le cinéma, on le voit bien, quand vous avez un écran comme... moi, je pense toujours, quand je part de ces choses-là, ou quand j'y réfléchis, à l'écran des films de Tati, enfin, surtout Playtime, où vous avez tellement de choses qui se passent en même temps, en plus sur un écran large, que vous ne pouvez pas faire attention à tout. Et donc, vous voyez qu'une partie, en réalité, de ce qui se passe. Et c'est à la deuxième vision, vous voyez une autre partie des choses. Et c'est une stratégie qui est très différente de ce qu'on avait vu dans Ice Age. Dans Ice Age, tout est fait pour que tout le monde regarde au même moment la même chose. Et surtout que ce soit toujours une chose qui est regardée. Lorsque vous regardez Playtime, c'est au contraire, le spectateur a la liberté, en quelque sorte, de choisir. Est-ce que je regarde la petite chose qui se passe à droite ou la petite chose qui se passe à gauche ou ce qui se passe au milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que spontanément, notre vision se tourne vers le milieu. Donc c'est aussi une façon de contrecarrer les automatismes de la vision en disant, ça c'est pour beaucoup de films, non, que si on déplace un peu la chose importante qui se passe plutôt vers le côté, eh bien c'est une sorte d'éducation ou de rééducation de notre regard et de notre attention qui s'oppose à cette fixation automatique au milieu du champ visuel. Voilà. Donc il y a un lien important entre l'éducation de l'attention perceptive, visuelle, mais aussi auditive, et le cinéma. Au-delà de ce que le cinéma représente, c'est un moyen de développer nos compétences dans le domaine de l'attention. Pas rien.
C'est un peu vaste, du coup, je ne sais plus sur quoi rebondir, mais je pense que dans ce que tu viens de dire, il y a aussi, pour nous, il y a en effet ce schéma où on essaye d'attirer l'attention et de l'attirer par des... Enfin, même dans le cinéma le plus loin de la réalité, en fait, on essaye de travailler sur des codes qui nous permettent de nous raccrocher... Ces codes nous permettent de nous raccrocher en fait à de la culture, et c'est ça qui permet aussi de, parce que l'esprit se raccroche à des choses. On pourrait parler du conte,
ouais.
Par exemple. Quand on fait un conte, eh bien, il y a toutes les références des films qui sont passés avant, c'est énormément de Disney, de choses comme ça. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle La Belle Dormant, qui est donc d'Adolfo Arrieta, qui est une adaptation de La Belle au Bois Dormant. Et avant de commencer le film, on avait regardé des extraits de Maléfice, les frères Grimm aussi, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow aussi, il y avait ça.
Your town
shall be haunted no more.
They were fearless.
You take.
They were ferocious.
Here's your money. Thank you, Brothers Grimm.
Oh, is she dead?
They were frauds.
Take him!
What the hell are you doing? Trying to kill us?
I'm getting too bloody old for this.
Now. A town under a curse.
10 girls in this village have gone missing.
People always knew that the forest was enchanted, but it's never turned against us.
Just found their only hope.
We're here to save your land from evil enchantments.
Papa, they're famous.
Right you are, son. The famous Brothers Grimm.
Look at this strapping young lad.
He is my daughter.
And a fine wife he'll make some lucky man.
We need a guide. Someone who knows the forest.
But the two men who thought it was all a hoax.
Hello, Grandmother Toad.
Show us the way and I'll give you a kiss.
That's just not right.
We'll discover...
There's someone in the woods!
How real it can be.
Don't trust the trees.
Don't panic!
Du coup, on aura... Enfin, la culture, elle... tout ça, c'est de l'imaginaire qui reste dans nos... qui reste dans notre mémoire et qui construit les autres films. C'est ce que j'expliquais au début.
Et comment est-ce que vous avez utilisé cette, justement cette mémoire dans ce conte de la Belle dormant?
Je peux m'éloigner du thème de l'espace. De l'espace
oui,
alors,
bien sûr,
parce
oui,
que là,
oui,
on
va... oui, tout à fait.
En réalité, alors là, pour le coup, le réalisateur, et quand on s'est rencontrés, Adolfo Arrieta, il est peintre aussi. Et donc, du coup, il n'avait que des références picturales. Et il a voulu transposer le conte aujourd'hui, c'est-à-dire, enfin aujourd'hui, oui, si c'est ça, le prince se révèle. Le prince est issu d'une famille royale du 21e siècle, du début du 21e siècle, et va réveiller une princesse qui est au début du 20e, enfin 19e. Et l'idée, c'était de trouver des références picturales qui marquaient les deux époques. Donc on a travaillé... On a essayé de travailler à partir de ces références pour trouver deux types d'images très différentes. Une qui caractériserait le temps présent et une qui caractériserait le passé.
Et donc cette différence passait notamment par le fait que le même cadre ou le même espace
était revu plusieurs fois, exactement,
mais dans des lumières différentes.
Dans des lumières tout à fait différentes.
Donc, ce qui montre la relation entre les questions de l'espace et
les questions de la lumière,
c'est-à-dire un espace qui physiquement est le même peut opérer très autrement, enfin de façon très différente sur le spectateur parce qu'il est construit autrement ou structuré autrement par une lumière différente, c'est ça?
Oui, parce que dans la construction du film, le prince qui va, la princesse au départ va se piquer le doigt, donc va traverser tout le château jusqu'à trouver la tour isolée. Et le prince, quand il va retrouver la princesse, va refaire ce parcours. En fait, le premier parcours est fait 100 ans avant, vu qu'elle s'est endormie pendant 100 ans. Et lui, quand il va revenir, il reviendra du présent, il va revenir dans un temps qui s'est figé, qui n'est pas le même temps que quand elle s'est piqué le doigt, et il va l'embrasser dans ce temps-là et la faire réapparaître au présent de maintenant. Donc du coup, il y a en effet ce... On va regarder les deux extraits.
Oui, pour voir la différence.
Donc d'abord le l'endormissement, le début.
Thank you. mystère, Bobosmith. Une vieille tour, dont une porte à l'intérieur était toujours fermée à clé. Personne à Kent ne savait où se trouvait la clé pour ouvrir la porte. Mais ce jour-ci,
c'est le prince qui part du 21e siècle, si on veut, et qui va
marche toujours vers le nord-ouest,
qui va faire un parcours vers le château du 19e, enfin du 20e après son temps. Et il va refaire exactement le même parcours que la belle.
Thank you. Alors là, l'idée, c'était qu'on était parti d'un univers plus ou moins réaliste, ou en tout cas qui est beaucoup plus référencé contemporain, même si ça paraît assez décadent, mais l'idée, c'était une monarchie un peu décadente du 21e siècle, un peu comme la monarchie espagnole, quelque chose comme ça. Et là, petit à petit, il va faire un voyage dans le temps, et vous allez voir que l'image va l'accompagner aussi dans ce voyage. Donc là, il entre dans cette forêt. Comme vous pouvez voir, la couleur déjà a changé. Le vert est plus même, il n'est pas un vert qu'on serait en droit d'attendre d'une forêt normale. Et on contrebalance ça avec des images du XXe siècle pour pouvoir se laver les yeux et bien voir la différence. On n'entre pas seulement dans l'univers du conte. Là, les couleurs, le vert a été changé vers une couleur un peu plus ocre. Et les références qui n'étaient pas forcément conscientes, mais qu'on avait vues, c'était quelques tableaux de Caspar Friedrich, David Friedrich, et les quelques films dont je vous ai parlé, les films Les Frères Grimm, Maléfice, et les films de Tim Burton aussi. Donc là, la référence à l'espace, elle est liée à la couleur aussi, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que l'espace devient un espace mental, qui est une interprétation de ce que pourrait être une forêt de contes de fées. Notion, c'est la notion de l'espace contraint. Évidemment, on travaille sur des affects quand on fait ce genre de... quand on travaille l'espace de cette façon-là. On va changer d'espace et on va arriver dans le château. Le château endormi. Je vais accélérer parce que le parcours est un peu long. Évidemment, il prend son temps pour découvrir. Je vous montre juste ça parce qu'il y a une référence aussi à un tableau qui s'appelle Narcisse. Mais là, tout reste figé. Donc le château est figé. Donc on revient à l'inverse là, dans la cuisine. Là, la lumière a changé. Il n'y a plus toute la fumée qu'il y avait avant. Là, il est dans le bureau du roi. On avait vu au tout début avec la princesse. Le salon de musique. Salon de danse. couloir on avait découvert la belle au départ. Donc on revient là aussi. Je passe un peu vite. Le cheval qu'on avait vu au départ. La tour. Et ce qui est intéressant, c'est donc la découverte de la princesse. Là, à nouveau, l'espace va changer par la lumière au moment du baiser. Et donc, on va revenir à tous les lieux. Il se passe tout pareil. Le salon de musique. Et le salon du roi qui a changé aussi.
Le bureau du roi.
Voilà. On va s'arrêter là. Je ne sais pas si c'était très perceptible, mais en tout cas, dans les cadres, l'idée des cadres sont quasiment l'identique. Mais ce qui change, et justement, c'est là où est l'organisation de l'espace, donc comme on disait, vient aussi de notre perception, à la fois... notre perception visuelle et à la fois notre culture. Les voies ascendantes d'un côté, les voies descendantes de l'autre. C'est-à-dire qu'on a essayé d'être exactement le même cadre, mais que c'était dans la lumière et dans à la fois les références et la façon dont on voyait la lumière, qu'il y a quelque chose qui doit être différent et qui doit marquer l'époque. Enfin, je ne sais pas si c'était très visible, je les ai en image fixe, si vous avez besoin de voir mieux. En tout cas, il y a eu trois lumières différentes sur chaque lieu. Et
est-ce que dans ce cas-là, pas seulement la lumière, mais aussi le cadrage est lié au fait qu'on est dans un univers qui est totalement imaginaire, c'est-à-dire est-ce que le spectateur va accepter plus facilement un certain type de... je dirais, de cadrage et de dynamique des cadres, parce qu'il a, tu as parlé des autres films qui ont toute cette tradition des contes, et lorsque tu es soit dans un autre univers fictionnel, soit dans un univers du documentaire, comment est-ce que cette question même de l'espace et du cadrage dépend du type d'univers, je dirais, dans lequel tu es, ou du genre, si on pense aussi au documentaire. Est-ce que, par exemple, je suppose que dans un documentaire, l'espace est plus contraint au sens que tu ne peux pas le construire aussi librement que tu le peux dans un film de fiction, du moins dans certains films de fiction, bien que il y a des films de fiction où l'espace est aussi contraint. Mais est-ce que dans ton travail, il y a tu abordes différemment à la fois la question de l'espace lorsque tu passes d'un type de fiction à un autre et lorsque tu passes de la fiction au documentaire, ou est-ce que pour toi c'est la même, je dirais, la même logique ou les mêmes problèmes qui se posent dans les deux cas, ou dans les trois cas plutôt?
Non, pour moi, c'est évidemment, le documentaire est plus contraint, mais il y a la même réflexion, en fait, pour moi. Il y a la même réflexion sur l'organisation de l'espace et sur la façon dont on veut montrer les choses. Il y a exactement la même réflexion. Sauf qu'on a évidemment beaucoup plus de confort en fiction, puisqu'on aura choisi les lieux longtemps à l'avance, on aura préparé les plans plus ou moins. Enfin, alors qu'en documentaire, il faut aussi pouvoir filmer ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose qui advient. Il faut avoir l'œil.
L'œil aux aguets. Et dans le documentaire, donc, malgré tout, il y a plus de contraintes externes parce que tu es. Lorsque tu filmes un événement, tu es obligé de le.
Quand on filme un événement, mais. Ouais. Mais en réalité, quand on tourne en documentaire, on prend presque plus de temps quand on tourne en fiction. Et ce temps-là nous permet aussi de réfléchir à la façon de tourner. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas tout le temps. On est avec des gens et la forme. Que prend le film vient aussi du rapport qu'on instaure avec les gens et avec le réel qu'on est en train de filmer. Mais en réalité, on part quand même avec des principes quand on fait un documentaire.
Et est-ce que tu dirais que tes principes sont donc en grande partie les mêmes?
Non, c'est pas, non. Pas les mêmes, mais. Tout dépend du film. Par exemple, le film de David Chou, Le Sommeil d'Or, c'était un film sur le cinéma. Et donc, l'idée, c'était quand même de faire un film sur le cinéma avec les moyens du cinéma. Donc, même si on a des contraintes suivant les décors, on s'est quand même tenu à avoir un film qui reproduise un peu. Des gestes de cinéma, de fiction classique, je veux dire, qui est très référencé, du coup. Donc, du coup, encore le travail de la référence, évidemment.
Et donc, y compris dans l'organisation du cadre et de l'espace.
Bien sûr, y compris dans l'organisation du cadre et de l'espace. Avec des travelling, avec toute une grammaire qu'on utilise sur tous les films.
Ça veut dire que dans ce cas, un documentaire est lié non seulement à la situation, les situations qu'il présente, mais aussi comme un film de fiction à la tradition ou à la tradition filmique, c'est-à-dire à la tradition de l'histoire et à ce qui t'a marqué dans la tradition dans l'histoire du cinéma, exactement comme dans un film de fiction, alors qu'en spontanément, peut-être qu'on aurait plus tendance à penser que dans un film de fiction, le poids de la tradition peut être plus grand et que dans un documentaire, il est moins présent parce que on est plus dans l'interaction de la situation dans laquelle on filme. Donc, en réalité, si je t'ai compris, ça voudrait dire que dans un documentaire comme dans un film de fiction, en réalité, la gestion des prises de vue et du projet n'est pas si différente que cela.
Les moyens sont différents.
Les moyens sont différents, mais on peut les utiliser de façon à construire quelque chose où l'aspect œuvre filmique est aussi central dans les deux cas.
Tout à fait.
Tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux donner un exemple peut-être d'organisation spatiale dans, par exemple, le sommeil d'or. Est-ce que tu as un exemple en tête où tu as composé une scène ou un plan ou un ensemble de plans spatialement en faisant l'enjeu non seulement d'une pensée du réel filmé, mais d'une pensée cinématographique, comme tu l'as fait dans les films de fiction. Est-ce que tu as en tête des scènes où, quand tu les as filmées, tu t'es dit, voilà, ça, je dois le filmer comme ceci, non seulement parce que c'est conforme à ce que le film veut transmettre du réel à ce moment-là, mais aussi parce que il est cohérent pour moi qu'à ce moment-là, le cadre soit construit de telle façon-là, pour des raisons de grammaire cinématographique, disons.
Tu veux dire pour une raison de contrainte ou...
Non,
une raison de ce que ça signifie.
Oui,
bien sûr, je pense au... Donc, c'est un film sur Le Sommeil d'Or, c'est un film sur un cinéma qui a disparu, le cinéma cambodgien, des années 70, on va dire, 60-70, juste avant que les Khmers Rouges cassent tout le cinéma, en gros, enfin tout ce qui était culturel. Et il y avait l'idée de revenir dans les anciens cinémas qui n'en sont plus. Mais du coup, dans cette idée-là, on voulait filmer les anciens cinémas aujourd'hui tels qu'ils sont, avec les moyens du cinéma, évidemment. Donc là, tout à fait, le découpage est complètement cinématographique. Je vous en passe un petit morceau.
Thank you.
ça, c'était un ancien cinéma. Il y en a un autre qui est filmé, mais celui-ci, ce que je trouve assez fort, c'est ses mouvements, qui sont évidemment des mouvements de fiction. Mais les travelling, c'est aussi les seules images qu'on ait de Phnom Penh qui a été vidée de ses habitants. C'est des images, c'est des travelling sur les rues, complètement vides. En fait, c'est pour ça que ce plan fait aussi référence à d'autres plans qui sont des plans de documentaire. Donc il y a ce mélange fiction-documentaire qui est tout à fait fort. Et du coup, dans l'organisation de l'espace et dans la façon de voir le film aussi, ça nous ramène à un autre imaginaire qui est celui du film de guerre.
Et là, tu peux dire un mot de la bande sonore à ce moment-là qui est...
Ah bah, la bande sonore, elle a petit à petit, on décolle complètement du réel. C'est-à-dire que les sons qui devraient être des sons de salle de sport deviennent des sons de guerre. Mais à la fois, ils étaient déjà présents. C'est-à-dire que les claquements étaient là. Les claquements des boules de billard, les claquements du ping-pong, c'est ça. Et ça, c'est complètement métaphorique, évidemment. Donc le travail de la métaphore est aussi présent dans le documentaire. Et je veux dire, même les situations. C'est-à-dire que la même situation peut être filmée de manière très différente. Et des situations de crise, hein, je veux dire. Des situations où on va filmer des migrants, on peut décider d'être caméra au point, ou au contraire de laisser vivre le réel. Enfin, toutes ces choses-là sont des... Après, on ne peut pas forcément amener un travelling pour faire ça. Mais ça, c'est plus des questions d'économie de moyens, mais l'aspect du film peut être tout à fait... Il y a une figure que j'aime bien, moi, que j'ai redécouvert là en revoyant les films que j'ai faits, et qui s'applique aussi bien au documentaire qu'à la fiction, c'est la figure de tourner un plan séquence à 360 degrés. Et ça, c'est un... J'en ai des exemples, là, je peux vous les montrer, qui sont aussi bien du documentaire que de la fiction. Un plan, encore un autre film que j'ai fait avec David Chou. Voilà. Donc ça, c'est un plan dans une fiction, mais en réalité, c'est pour être tout à fait un plan documentaire. Ça en documentaire encore plus affirmé.
Erzincan, à l'est de la Turquie. C'est la ville natale de mon arrière-grand-père arménien. Jusqu'en 1915, il faisait partie de l'importante communauté arménienne qui vivait ici. En 1939, la ville a été détruite par un séisme majeur, anéantissant à tout jamais les traces de vie arménienne. Dans ma famille, je suis le premier à y retourner. Dis-moi, Richard, comment il se faisait appeler mon arrière-grand-père ?
Le nom sous lequel il est enterré, Yerya Khayajanian, Yega Khayajanian, mais on sait que ce n'était pas son vrai nom, puisque son vrai nom était Varan Khalajian.
Tu sais pourquoi il a changé de nom, de Yagya à Varan ?
Alors, on suppose que, vu le pays dans lequel il vivait à ce moment-là, il a décidé donc de se réfugier en Syrie. Il fallait sans doute des papiers en bonne et due forme. Et il ne les avait pas sous son nom à lui, il serait tombé en possession des papiers d'un certain Yegia Khayajanian, dont il aurait pris l'identité pour pouvoir se sauver.
Et ça, ça peut aller avec une idée du découpage aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi très bien découper en mettant la caméra au centre de l'action et tourner autour des gens qui sont là. Et ça, ça peut se faire
dans les deux
oui. cas. J'ai des exemples aussi en fiction et en documentaire.
En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est que dans les exemples que tu as donnés, en fait, tous pourraient être dans un film de fiction ou dans un film documentaire.
Tout à fait.
C'est-à-dire au niveau d'un, disons là, de ces plans-là, il n'y a aucune caractéristique interne qui permet de dire que c'est plutôt un plan d'un film de fiction ou d'un film documentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractéristique de syntaxe filmique qui permette de dire dans quel univers on se trouve. Et, d'une certaine manière, la scène de Diamond Island, avec où on entend la radio, c'est ça, c'est
tout à fait.
Donc un film de fiction, mais ça pourrait être parfaitement une scène dans un film documentaire où voilà, on voit le paysage, enfin déplacement de gens dans un paysage de ville, et la caméra qui tourne, et puis le commentaire off, disons, qui est extrait d'une émission radiophonique. Donc rien n'indique je dirais de manière auto-attestante qu'on est dans un documentaire ou dans une fiction. Et est-ce qu'au niveau de la construction globale, est-ce que une différence tu as parlé du montage en passant en disant que voilà, là, est-ce qu'on conçoit le montage de la même façon aussi, ou est-ce que toi tu le conçois de la même façon quand tu filmes en ayant en tête un montage éventuel quand tu es dans un film documentaire et dans un film de fiction, c'est-à-dire est-ce que la relation entre les plans que tu filmes et le montage qui va être fait à partir de ces plans, est-ce que quand tu penses à cela tu intériorises une possible différence entre le montage d'un film de fiction et celui d'un film de documentaire ou non ?
Non, bon, déjà, je vais revenir sur la question des plans. C'est-à-dire que ces plans-là, vraiment, on n'a rien découvert. C'est-à-dire que Depardon le fait aussi dans ouais. Afrique, commence avec la douleur. Et en réalité, il y a aussi cette question de tourner. Et, pour moi, je le rattache assez à des tableaux de Van Gogh, là, la ronde des prisonniers. Ou alors, il y a aussi dans chez Kubrick aussi le fait de tourner en rond. Et en fait, c'est une question
d'enfermement à la fois dans l'espace et dans la tête. C'est-à-dire que dans Diamond Island, ce qui se passe, c'est que au moment où on tourne, c'est les élections et les gens sont complètement enfermés, les élections sont complètement truquées. Et la question qui se pose en réalité, c'est est-ce qu'on prend les armes si le parti en place est élu, alors qu'on sait très bien qu'il n'a pas que personne n'a voté pour lui ou pas. La porie est la même dans le film d'Arnaud Kayadjanian, où il retourne sur les traces de son grand-père en sachant qu'il n'y a plus aucun survivant et que de toute façon il ne va rien trouver, que personne ne va rien lui dire. On est dans la porie dans tous ces plans-là. En fiction, sur le découpage dont je parlais de l'idiot, qui est le même chez De Rémy, l'idiot, c'est une femme qui est enserrée par ses amants. Et donc on tourne autour de ses amants, mais elle est enfermée. Dans De Rémy 2, le double, on lui tend un guet-apens. La signification des plans est très importante. Et à ce moment-là, évidemment, vu que c'est un 360, on ne pense pas à montage, mais si on se retrouve dans une situation similaire en documentaire à celle dont je viens de parler, c'est-à-dire filmer des visages de gens qui sont attroupés, et bien il faut aussi penser à comment on va les filmer. Et ça c'est autant des questions de... C'est autant des questions de découpage que des questions de cadre, c'est-à-dire que la hauteur caméra va aussi influencer sur la façon dont on va percevoir les gens. Si on les filme d'en haut, en plongée, ils paraîtront beaucoup plus écrasés que si on les filme d'en dessous, ils seront plus mis en valeur. Voilà, donc déjà, il y a à la base, avant toute chose, il y a la question de la signification des plans qu'on se pose de manière... plus ou moins intentionnelle. Et après, en fiction, on se pose on se pose en permanence la question du montage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un plan, on se demande comment il va raccorder avec le précédent. Donc la question, elle est prégnante. Mais c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir, sur le film Les chemins arides, là, d'Arnaud Kayadjanian, les plans durent très longtemps parce qu'il fait un parcours. Donc comment on filme un parcours? Donc il faut qu'on sente qu'il a du mal à marcher, enfin voilà. Donc la façon de filmer est aussi induite par le sentiment qu'on veut induire. Et cette marche, par exemple, doit être difficile. Et dès le départ, on sait qu'elle sera difficile. Et donc on sait que le montage là-dedans va être fait de plans assez longs. Alors qu'on pourrait être dans une situation beaucoup plus limite, avec beaucoup de gens, et filmer un peu ce qui arrive. Qui est aussi rendre un autre sentiment, c'était le sentiment d'urgence. Enfin, voilà.
Peut-être juste avant que... on va faire une pause, peut-être d'abord un peu des questions que vous voulez poser, mais peut-être si j'ai encore une minute. C'est on a parlé depuis le début qu'une des fonctions quand on filme, c'est évidemment de capter l'attention, d'attirer l'attention. Dans des films de fiction, c'était presque caricatural dans le trailer de Ice Age. L'attention est captée elle est censée être captée parce que ce qui importe, c'est un récit. C'est-à-dire, on veut que les spectateurs suivent la narration et le cinéma hollywoodien, à la fois dans l'organisation des espaces, mais aussi dans le montage, a tout fait pour que cet intérêt-là pour ce qui est raconté ne soit contrarié par rien au niveau, par exemple, du montage, que le montage doit être lisse et que même le regard doit pouvoir, d'un plan à l'autre, pouvoir se placer au même endroit et puis se déplacer, enfin, tout ce qu'on... Le continuity editing, tout ce qu'on se l'est. Est-ce que quand tu photographies dans un film, pour un film documentaire, et que par exemple il y a un cas, une scène où il y a plusieurs personnes, et il y a des personnes qui parlent, il y a des personnes qui n'interviennent pas, quand tu organises ton espace, est-ce que tu te poses la question de, quel est le type d'attention où tu veux fixer l'attention du spectateur? Est-ce que tu veux la laisser libre, qu'il puisse se déplacer sur l'ensemble de ce que tu cadres? Ou est-ce que tu penses que dans, par exemple, tel ou tel moment de ce film documentaire, où se disent des choses qui peuvent être importantes, etc., voilà, est-ce que tu te dirais, alors je vais organiser l'espace par rapport à, disons, à ce qui... ce que ce moment signifie à travers le massage qu'il contribue à l'ensemble du film, ou est-ce que tu vas penser d'abord en termes presque d'espace plastique, en disant que eh bien, je peux à la fois contribuer à la cohérence du film comme message, tout en donnant une relative autonomie à l'organisation plastique de l'espace que je suis en train de filmer. Est-ce que tu te sens plus contraint dans un film documentaire par cette idée qu'il y a un massage et que l'organisation spatiale aussi que tu vas organiser doit être un peu ou devrait être centrée sur cela, ou est-ce que tu vois le documentaire aussi comme un médium dans lequel le réel qu'il s'agit de faire passer, c'est aussi un réel qui est dans la construction tout simplement des espaces et il ne se réduit pas à, par exemple, ce qui est dit à ce moment-là comme message par les personnages qui sont filmés. Je sais qu'il y a des scènes dans le film sur le cinéma cambodgien où des personnes parlent et j'ai eu l'impression qu'il y a en parallèle à la fois la volonté de donner toute sa force à ses paroles et en même temps de construire plastiquement les images de telle façon qu'il s'établit une sorte de dialogue entre ce que la personne dit et la façon dont elle est filmée, notamment la scène vers la fin du film où un monsieur tient un long discours que j'ai vu son sous-titre, donc je n'ai pas compris exactement ce qu'il disait, mais voilà, il y a même, et d'autant plus là, quand on ne comprend pas, l'organisation plastique de l'espace apparaît d'autant plus fortement. Donc voilà, c'était ça, là, c'est une question banale, mais voilà, une question de spectateur. Comment est-ce que tu penses ces espaces-là quand il s'agit des moments qui sont très importants dans un documentaire où des personnes s'expriment et apportent une contribution au message, entre guillemets, du documentaire entier.
Le problème, c'est qu'il y a...
Bah oui, donne-moi.
Non, mais il y a un éventail énorme. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, c'est assez juste sur le sommeil d'or, encore qu'il y a des moments d'importance. C'est-à-dire qu'il y a des interviews qui durent très longtemps. Mmh. Et où les gens sont là pendant très, très longtemps. Et à la fin, en fait, c'est le cinéma qui revient à travers leurs paroles. Et donc, le moment dont on parle, c'est à la fin du film, en effet, un réalisateur qui raconte une scène d'un de ses films qui a disparu. Et donc, du coup, tout ce qui nous reste de ce film, c'est ce que lui, il en raconte. Mais le personnage principal, à ce moment-là, ce n'est plus le réalisateur. C'est le film et l'imaginaire qui en découle. Donc là, en effet... la façon de décrire l'espace, c'est aussi lié à une perte. C'est-à-dire que lui, il disparaît petit à petit. Et on filme beaucoup de murs aussi, beaucoup de décors vides. Donc ça, c'est très particulier. Mais dans d'autres moments, il y a des moments d'interview classiques qui durent très très longtemps. Et où ils sont... où le portrait et la parole est le plus important. Donc les deux coexistent.
Il y a les deux, oui, c'est les ça. Deux dans le même film,
exactement.
Tu peux avoir les deux.
Oui, oui. Exactement.
Et donc ça construit en même temps une tension herméneutique entre ces deux façons de traiter ce qui relève de la parole et du massage.